Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules, c'est tous les jours, c'est en direct avec vous, on vous attend au 32-16 pour réagir, pour discuter, pour débattre, débattre tout à l'heure dans le GG Saté Match sur l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux, par exemple pour ou contre, voilà, c'est tout à l'heure à 11h20. En attendant, voilà le à vous de choisir et c'est nous qui avons choisi de revenir sur le scandale Orpea.
RMC, les Grandes Gueules,
à vous de choisir.
À vous de choisir avec aujourd'hui Orpea, un an après la sortie du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs.
Oui, et on se souvient qu'en avril 2022, notre GG maître Sarah Salman avait déposé 80 plaintes contre Orpea. Elles ont d'ailleurs été regroupées avec d'autres plaintes au parquet de Nanterre, et depuis, certaines d'entre elles ont été classées sans suite. Pour l'instant, il y en a encore 53 qui sont envoyées en enquête préliminaire. Alors, on nous dit que depuis un an chez Orpea, on a renforcé les contrôles, certains cadres dirigeants ont été limogés, le dialogue social s'est amélioré, mais on va voir avec ce témoignage que certaines pratiques demeurent malgré donc la dénonciation de ce scandale des EHPAD. Donc la question qu'on pose ce matin, est-ce que les choses ont vraiment changé dans les EHPAD gérés par le groupe Orpea ?
C'est Bernard Delis qui est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Delis, bonjour. Vous êtes fils d'une victime. Pour vous, de maltraitance présumée, qu'est-il arrivé à votre mère ? Racontez-nous alors.
Alors, merci d'abord de me donner la parole, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation où moi, personnellement, je suis en colère et inquiet. Vous allez vite comprendre quand je vais vous réitérer un petit peu la petite histoire. Maman l'a fait rentrer en maison de retraite dans une résidence du groupe Domusvi, il y a moins de 2 ans, c'est en février 2020. Elle est rentrée dans cette maison de retraite en pleine santé. Elle marchait avec une canne, un peu difficilement, mais elle marchait. Et on s'est très vite rendu compte, quelques jours après, qu'on la mettait dans un fauteuil roulant. Donc on s'est posé la question, on leur a posé la question, on leur a dit « vous inquiétez pas, c'est simplement pour gagner du temps avec le nombre de résidents, pour emmener tout le monde à la bonne heure au restaurant ». Très bien, sauf que de occasionnel, c'est passé à permanent, c'est-à-dire que maman, elle est soit dans son lit, soit dans son fauteuil roulant. Donc, on a.
Est-ce que son état de santé s'est dégradé en lui-même ?
Pas du tout. Pas du tout. C'est eux qui ont décidé de la mettre dans le fauteuil roulant pour un côté pratique.
Ils ont supprimé son autonomie, quoi, en quelque sorte.
C'est ça. Absolument, absolument. Donc, on a un petit peu rouspété. Ils ont dit oui, mais c'est la maladie de votre maman. J'ai dit, excusez-moi, mais maman a vécu 4 ans avec moi. Je la faisais suivre parfaitement et elle n'a jamais été malade. Bah, très bien. Bah, on vous conseille fortement d'aller consulter un gériatre. Nous avons été consulter le gériatre qui nous ont recommandé et le gériatre a précisé que maman a été diagnostiquée ni Parkinson ni Alzheimer et qu'elle n'avait aucune maladie qui l'empêchait de marcher. En revanche, il fallait absolument continuer les séances de kiné qu'il ne faisait pas et surtout avec de la stimulation active. Et depuis ce temps-là, on demande systématiquement à la direction ce qu'ils ont mis en place et on a une fin de nous recevoir. On ne répond pas.
Et ça, c'est pour le côté. C'est incroyable, ça.
Et ça, c'est pour le côté autonomie. Il y a eu aussi, et c'est ma petite sœur qui s'est rendue compte, quand maman allait aux toilettes, qu'elle la menait, qu'elle faisait des infections urinaires. Au début d'année, donc au mois de mai, on avait fait 5. Donc on s'est encore inquiété alors qu'on avait déjà prévenu, parce qu'il faut savoir ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dès le départ également, en plus du fauteuil roulant, c'était des couches culottes jour et nuit. Moi je me suis déplacé, je me suis mis en colère, j'ai demandé à la cadre-chef, excusez-moi, mais permettez-moi de vous poser la question, pourquoi ou à quel moment plutôt, un adulte, vous vous sentez obligé de mettre une couche culotte? Et là, elle a dû comprendre ma question. Elle a dit, bah, c'est parce que votre maman a des pertes. Non, maman, elle est ni incontinente et elle n'a pas de pertes non plus. Ah bah, puisque c'est comme ça, il faut aller voir un urologue. Donc, nous sommes déplacés, on l'a amené voir un urologue. L'urologue a demandé, bien évidemment, ce qu'ils appellent un planning missionnaire, c'est-à-dire savoir combien de fois on amène maman aux toilettes. Et au vu de ce planning, il a été outré. J'exagère à peine en disant, mais je comprends pas, votre maman, on ne l'emmène pas assez aux toilettes. Un exemple, de 18h45 à 8h du matin, on l'emmène pas aux toilettes.
Ah bon?
Ah bon?
Ouais. Donc, il a dit.
Donc, c'est pour ça qu'ils mettent des couches, en fait, parce que comme ça, ça leur évite de.
Mais par manque de personnel? C'est un manque de personnel?
Bah, alors, quand on parle de. Oui, quand on fait état de notre mécontentement, c'est la réponse magique. Oui, mais nous n'avons pas assez de personnel.
Combien vous payez?
3 500 euros par mois. Oh,
3 500 euros par mois, ils vous disent qu'il n'y a pas assez de personnel.
Voilà. Mais alors, la réponse, elle est facile. Ils nous disent, oui, mais l'ARS ne nous donne pas assez de personnes. Ben, très bien, mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, la résidence, d'embaucher?
Non, c'est pas ça. Enfin, permettez-moi quand même, Bernard, c'est que. Mais si on vous oppose le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnel, on prend pas autant de personnes, sachant qu'on n'a pas le personnel. Genre dans les centres aérés et dans toute l'éducation périscolaire, on prend pas 12 enfants alors qu'on n'a qu'un animateur. C'est un animateur pour 8. C'est tout. C'est genre la colo.
Et c'est pour cela que je leur disais très bien. Moi, vous savez, je suis pragmatique. 3500 euros multipliés par quelques 80 résidents, ça fait 280 000 euros par mois. Qu'est-ce que vous faites de l'argent? Ou plutôt, combien vous coûte réellement ma mère?
Et vous êtes votre mère est dans quel EHPAD, Bernard?
Dans une résidence qui s'appelle les Jardins de Longueuil à Vaujour.
D'accord.
Non, mais c'est.
D'accord.
Ça rejoint la proposition de Bernard Jomier, qu'il a fait dernièrement au Sénat, qui est celle de la mise en place de quotas. Voilà, de personnel, en fait, par rapport au nombre de malades, quoi.
Mais oui,
si tu mets ces quotas en place, tu mets le financement qui va avec.
En jeunesse et sport,
à ce moment-là, tu n'as plus les problèmes qui sont décrits là, quoi.
Mais oui.
Mais la perte d'autonomie chez la personne âgée, ça arrive très très vite. Donc dès l'instant où effectivement tu as une baisse de la stimulation, une baisse des activités, tu as une perte d'autonomie et là c'est quasi irréversible, quoi. De la même façon que quand tu maintiens les gens au lit, tu as et que tu ne fais pas des décubitus alternés ou que tu n'as pas le matériel nécessaire pour éviter la dégradation cutanée, tu as l'apparition d'ulcères, d'escarres. Et ça, c'est une entrée forte dans la dépendance avec un risque de mort, quoi. Donc, on voit que la présence du personnel et l'action du personnel sur les personnes âgées, c'est primordial.
Donc, il n'y a pas de quota, en fait. Il n'y a pas de quota comme pour les centres aérés, les colonies de vacances, etc.
Il n'y a pas vraiment de quota et c'est pour ça que Bernard Jomier le demande et il a tout à fait raison.
Mais en plus, votre mère, vous l'avez constaté, a fait plusieurs chutes.
Bah, alors oui, elle a fait la dernière chute, vous avez peut-être vu la photo, mais il n'y a pas que ça. Elle a eu, alors qu'elle est en fauteuil roulant, et on ne sait pas nous expliquer comment, elle a eu une foulure à la cheville, elle a eu une plaie à l'arrière du cuir chevelu, elle a eu son dentier cassé en deux.
Et quand vous posez des questions, est-ce qu'il n'y a pas des témoins, il n'y a pas quelqu'un qui peut expliquer ce qui s'est passé?
Ah ben, il y a personne qui a su dire ce qui s'est passé. Par contre,
bah, il
nous raconte. Bah, moi, le seul mail que j'ai de la direction, c'est elle a dû être sur son fauteuil roulant, vouloir avancer avec ses pieds, et elle a dû tomber comme ça. On s'excuse. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu. Voilà. Alors, mais ça s'arrête pas là parce qu'ils ont manque tellement de personnel. Eh bien, que nous, on a fait venir notre propre kiné. Sans leur demander d'arrêter leur séance, mais ils l'ont arrêté quand même parce que ça les arrange. Et là, on vient d'apprendre qu'ils ont demandé l'autorisation à notre kiné de mettre un appareillage qu'ils appellent, je crois, le stand-up. C'est-à-dire que tout seul, ça leur fait mal au dos maintenant pour tenir maman suspendue et lui prendre sa douche. Alors que ma mère tient debout toute seule, même si elle est affaiblie parce qu'elle a perdu ses muscles. Et parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, eh bien là, on va automatiser la douche de maman. En fait, c'est un animal.
Oui, c'est ça. Je vois ce que c'est, ces appareils, en fait. Les gens sont suspendus avec des espèces de harnais, puis vous les touchez, quoi, voilà. En fait. C'est ça. Ouais. Voilà.
Elle a quel âge, votre maman?
Elle va faire 84 ans au mois de septembre.
C'est terrible ce que vous racontez, parce que j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'il faut vraiment vieillir, quoi? Parce que si c'est pour être ensuite maltraité, en fait, en fin
mais
de
vous
vie.
Vous vous rendez compte, excusez-moi, mais vous vous rendez compte que nous, les enfants, nous sommes sur eux. En permanence. J'imagine, je pleure quand je pense aux personnes âgées qui n'ont pas d'enfants pour les vivants.
Oui.
J'en ai des sanglots dans la voix quand j'y pense.
Oui, parce que vous êtes là et vous vous battez pour qu'elle.
Non, mais Bernard, il y a plusieurs. C'est pour ça que le grand âge et la dépendance, c'est un vrai sujet de société.
Surtout, c'est notre avenir à nous aussi. Hein,
Mais apparemment, si les EHPAD, en tout cas les établissements collectifs, se réforment pas et revoient un petit peu la façon humaine de gérer les gens, il y a aussi l'étude d'autres pistes qui ont, qui est comment on permet aux gens de rester chez eux, comment on permet aux gens d'avoir une vie sociale tout en restant chez eux et avoir les mêmes accompagnements et aides, parce que notre société elle fonctionne pas du tout comme ça. Elle fonctionne pas du tout avec l'idée de prolonger la vie pas loin de ses enfants,
etc. Un choix collectif, parce que à l'époque les maisons, moi je me rappelle les maisons de retraite de mon arrière-grand-mère, les arrière-grand-mères, il y avait quand même beaucoup plus jeunes finalement, et il y avait de la socialisation. Oui. Elle vivait aussi peut-être un petit peu moins longtemps. Maintenant, on arrive plutôt en EHPAD à un âge très avancé, avec des pathologies de plus en plus lourdes, très médicalisées, etc., etc. Et donc,
le principe, hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est un peu le principe. Le problème, c'est que la France n'a pas voulu sacraliser les professions du grand âge. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, on n'a pas fait des professions du grand âge des filières d'excellence.
Oui.
On en a fait presque des voies de garage. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui soient aides-soignants, infirmiers, même médecins, vont en gériatrie des fois par défaut. C'est terrible.
Mais pense parce que
le soin aux personnes âgées est un soin extrêmement technique qui demande beaucoup de compétences et qui doit être reconnu. C'est-à-dire, quelle que soit ta fonction auprès des personnes âgées, tu dois avoir ta fonction sacralisée et faite filière d'excellence. Et ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on en arrive à ce manque de personnel pas tant dans les EHPAD, mais aussi dans le secteur sanitaire, et qu'on a ces grandes difficultés. Ça fait, moi, des années que je le demande, et j'en avais parlé avec Sabrina Delery et Victor Garcia, qui s'étaient occupés aux côtés du rédacteur du livre, de cette problématique, et qui l'avaient mis, d'ailleurs, dans leur demande, qui ont été portées au plus haut de l'État. Mais il faut accélérer ça. Il faut impérativement qu'on reconnaisse ces professions comme filières d'excellence. C'est la seule
possibilité. Je vous remercie, Bernard Delisle, d'avoir été avec nous.
Merci pour ce témoignage.
Merci pour ce témoignage. On espère surtout que les dossiers vont avancer, que les pratiques vont changer, puisque c'est entre les mains de la justice, maintenant.
Ouais, on est en train d'aider par Maître Sarah Salman, que je remercie, parce que il faut des gens qui prennent les dossiers à bras de corps et qui se battent, parce que ça peut pas continuer comme ça. Nous, on est inquiets tous les jours, mais quoi faire?
J'imagine, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Merci Bernard d'avoir été avec nous. Imane, bonjour. Imane dans le Nord. Bonjour, bienvenue.
Oui. Bonjour.
Infirmière à domicile qui avait travaillé en EHPAD et qui avait vu certaines pratiques aussi.
Oui. Moi, ça remonte il y a quelques années. C'est une EHPAD sur l'île. C'est une EHPAD, si vous voulez, qui avait la réputation ne pas être faite pour les petits budgets, dans le sens où elle coûtait dans les 6 000 euros par mois.
Ah, quand même.
Ah oui, ça peut aller au-delà même.
Tu peux sortir de 6 000.
J'avais été choquée parce que dès le premier jour, donc déjà, on présente une liste de personnes à qui je devais effectuer les soins d'hygiène de toilette. J'étais toute seule pour un nombre incalculable de résidents. Mais surtout, le pire, c'est que je n'avais pas de serviette de toilette. Je demande des serviettes de toilette. On me dit, il n'y a pas de serviette de toilette. On m'a obligée à sécher les gens avec des torchons de cuisine.
Non.
Là,
on ne peut pas dire manque de personnel, etc. C'est de la maltraitance.
En fait, c'est le mépris qu'on a pour les personnes âgées.
La maltraitance, elle est vicieuse. La maltraitance, elle est partout. La maltraitance, vous la retrouvez aussi dans les prises en charge à domicile. Ça n'est jamais évoqué. La maltraitance, elle est partout. Mais dans cette EHPAD, les gens n'étaient plus des êtres humains. C'était des fantômes. C'était des zombies. Ils étaient parqués dans un coin. Pendant des heures, on les sortait du lit. Leur journée s'était rythmée par soins d'hygiène. Sortir du lit, retour au lit.
C'était de la grande dépendance, Alzheimer, incapacité de mouvement et autres, c'est ça? Ou pas?
Oui, en fait, vous avez dans les maisons de retraite le système dans les EHPAD, c'est que vous avez une majorité de résidents qui sont dans des chambres individuelles, ouais. Et vous avez un service qu'on appelait Cantou, je ne sais pas si on appelle ça comme ça encore, où vous avez les personnes qui sont Alzheimer, type démence, enfin tout type
sûr,
de démence.
Fermé, ouais.
Voilà, et qui sont fermés, c'est fermé à clé. Et la maltraitance, alors moi déjà depuis cette expérience-là, je me refuse, je ne remettrai plus jamais les pieds en tant que soignante dans quelque EHPAD que ce soit, parce que là on parle d'Orpea, mais il n'y a pas que Orpea. Je vous dis, c'est vicieux, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et il y a vraiment beaucoup de travail à faire.
Attendez, ça veut dire qu'un an après la sortie du bouquin, il y a eu quand même des prises de parole de tous les politiques, vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire des inspections, des trucs. Oui, en fait, un an après, rien n'a changé.
Absolument rien. C'est des effets de mode, des effets d'annonce, comme
c'est
d'habitude.
Ça. On en a parlé beaucoup et c'est retombé dans le
vide.
J'avais lu qu'il y avait en moyenne.
C'était quand même assez aberrant. Ce qui m'a frappé, c'est de constater que les politiques semblaient découvrir au moment de la sortie du livre
oui, ça va aussi.
L'existence de la maltraitance.
Oui.
C'est une plaisanterie. Ça fait des années que ça dure et c'est pas malheureusement. Alors le bouquin c'est super, mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Mais
j'avais quand même en mémoire que on était passé, enfin qu'à l'époque un EHPAD en moyenne était contrôlé une fois tous les 20 ans,
oui, c'est
on
ça.
Dire jamais, et qu'on était passé à contrôler systématiquement toutes les EHPAD en 2 ans. Donc j'imagine quand même, il doit y avoir 7000 et pas les quelques, j'imagine quand même qu'on a dû voir les changements, non, docteur ?
Les contrôles se font par surprise ?
Mais dites-moi Iman, j'ai une question.
Le contrôle, c'est ponctuel, si tu veux. Le problème, c'est que une fois qu'est passé le contrôle, si la situation reste la même, si tu n'as pas plus de personnel, si tu n'as pas plus de moyens, alors je ne parle pas là de la problématique d'Omisvie, Orpea, etc., où là, on est plus sur le côté de la financiarisation du soin, qu'on connaît bien, y compris dans le secteur sanitaire, avec une mainmise aujourd'hui des grands groupes, etc., et qui ont des problématiques financières, quoi, ce qui devrait pas avoir la place dans la santé. Mais on a quand même une problématique dans ce pays, qui est celle, encore une fois, du fait que la plupart des établissements aujourd'hui fonctionnent en mode dégradé. C'est-à-dire qu'il manque des kinés, il manque des infirmières, il manque des aides-soignantes, etc., etc.
Oui, mais...
dans des métiers qui sont extrêmement difficiles, avec des personnels soignants qui souvent vivent très mal le fait d'être devenus maltraitants contre leur gré.
Oui, c'est
parce que c'est ça hein, aussi. Les gens deviennent maltraitants parce que eux-mêmes deviennent en burn-out. Et quand t'es en burn-out, quand t'es épuisé, tu fais plus attention à l'autre. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il faut vraiment qu'on ait pleinement conscience de ce problème-là et qu'on fasse pas que des contrôles. Ce qu'il faut, c'est qu'on revoie Mais de fond en comble, le fonctionnement de notre prise en charge gériatrique. Il y a des services d'excellence, en particulier à l'hôpital, des grands services de gériatrie. Il y en a aussi dans le privé. Mais ils ont les moyens de le faire. Mais donnons les moyens à tout le monde de se développer et faisons la chasse à ceux qui profitent.
Moi, je me pose des questions parce que les directions qui dirigent ces services, ces structures, elles donnent des ordres. Elles sont elles au fait de cette maltraitance. Donc la première maltraitance que l'on inflige aux autres, elle est de sa propre responsabilité. Que l'on soit en burn-out, en sous-effectif, etc. Ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire, humainement, soi-même, on maltraite pas quelqu'un, quelle que soit la condition dans laquelle on se trouve. Et ça m'interroge. C'est-à-dire que comment, humainement, je suis aide-soignante, infirmière, aide-ménagère, et Iman le dit très bien, elle a tellement pas supporté elle-même de devenir maltraitante qu'elle est partie.
Voilà.
Ça veut dire que pour être maltraitant, il faut des gens qui le soient. Qui le deviennent, mais quand même qu'il accepte, c'est un pan quand même de l'histoire qu'il faut quand même visiter. Tu deviens aide ménagère, aide soignante, que ce soit à domicile ou en EHPAD. Je veux dire, on t'ordonne de doucher des gens comme ça, de les traîner ou en tout cas de mal les traiter. Et t'acceptes.
Merci à Iman de ce témoignage et encore à Bernard Delis qui nous a raconté aussi ce qui est arrivé à sa maman. Et les dossiers sont suivis par Sarah, maître
Merci
Sarah,
à Sarah,
notre GG.
En contact.
Et on suivra ça avec elle, bien sûr. Bah, dans un instant, la médecine, on va continuer d'en parler, justement. L'obligation d'installer les médecins dans les déserts là où on a besoin d'eux. Une équipe dit
oui, une équipe
dit non. On va tout de suite un petit peu avec vous au 32-16.
Jérôme, on a
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
GG 7 et match.
On a une quarantaine de députés qui ont déposé une proposition de loi qui obligerait les médecins libéraux à s'installer dans les territoires, vous savez, les provinces, les villes, qu'on dit être les moins bien dotées, le tout étant de lutter contre les déserts médicaux. Alors, il y a quelques statistiques qui ont été données par les députés. Ces 40 députés qui sont de tous bords politiques, d'ailleurs, c'est assez œcuménique. 3 fois plus de généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes, par exemple, que dans l'Eure. 23 fois plus de dermatologues à Paris que dans la Nièvre. 33 fois plus de pédiatres, toujours dans la capitale, que dans l'Indre. Donc, ils disent, on n'a qu'à appliquer aux médecins ce que l'on fait aux pharmaciens. On régule l'installation des médecins libéraux. On ne leur laisse plus la liberté d'installation. Ouais. Une équipe dit oui, Jean-Baptiste Djebari, Zorabitant. Une équipe dit non, Olivier et Jérôme. Les 60 secondes au docteur Marty, c'est parti.
Bon, déjà, ils vont les envoyer partout, puisque les déserts aujourd'hui en France, c'est partout, quoi. On va faire tomber quelques idées reçues. D'abord, sur les pharmaciens, on nous dit, mais les pharmaciens ont des quotas. Mais les pharmaciens, c'est eux qui l'ont demandé, parce qu'à une époque où ils étaient trop nombreux, le rapport entre les zones où il y avait trop de pharmaciens et pas assez de pharmaciens, c'était de 1 à 7. Pour les médecins, c'est à peine une demi-fois plus. Donc, on n'a plus que des déserts, ou des zones qui sont en voie de devenir des déserts. Pour ce qui est du paiement des études, on dit, mais la France leur paie les études, il n'y a qu'à les obliger à s'installer. Les internes, ils bossent 70% 20% d'entre eux bossent plus de 48 heures par semaine. Ils bossent pour 6 euros de l'heure. 27% d'entre eux ont des syndromes dépressifs. Un interne se suicide tous les 18 jours. Et ils tiennent à bout de bras les hôpitaux périphériques. Et on veut qu'ils remboursent en allant s'installer, mais on est devenu fou. On est devenu fou. On est en train, on a des zones en voie de désertification. On veut prendre des médecins, les obliger à aller ailleurs. Mais alors, on va créer des déserts quelque part pour boucher notre trou. C'est du shadow. Ça rime absolument à rien. On a loupé l'aménagement du territoire. Ces gens-là transforment les conséquences de leurs actes politiques en cause et ils ne voient pas que chaque désert est différent. La problématique, c'est qu'un désert, c'est une empreinte digitale. Si on ne regarde pas qu'est-ce qui a fait que les médecins sont partis de cette zone-là, on n'y arrivera pas.
Voilà, Jérôme Marty a terminé.
Il était bon, hein.
Réponse.
C'est pour ça que je me suis mis avec Jérôme, parce que c'est qui est meilleur.
Réponse des deux autres qui sont déjà en soins palliatifs.
Dans l'au-delà déjà.
Ah oui.
Là, je pense que bon, Jérôme a dit beaucoup de choses qui sont d'ailleurs justes. Je pense qu'il y a un problème démographique. Il y a quand même une fausse concurrence qui a été organisée par les médecins eux-mêmes dans les années 70 pour justement faire le numerus clausus, avoir plutôt peu de médecins pour que les médecins généralistes vivent bien. Et c'est ça en fait qui se retourne aujourd'hui contre la démographie, contre les médecins. Par ailleurs, les médecins qui étaient quand même, pour certains, bien installés en politique, assez forts au Parlement, aujourd'hui ont peut-être moins de capacité de lobbying qu'avant. Après, moi, je pense qu'il faut essayer de regarder les choses avec un peu de distance. On a des systèmes parfois publics qui fonctionnent avec le Royaume-Uni, par exemple, système public qui fonctionne avec des médecins qui sont essentiellement salariés. On a des systèmes privés aux États-Unis qui fonctionnent essentiellement avec une médecine privée. Et en France, c'est l'inverse.
C'est un peu hybride, nous.
C'est même complètement hybride. C'est qu'on a, grosso modo, tout socialisé, mais on a des médecins libéraux, privé. Et c'est ce système-là probablement qui dysfonctionne un peu. Donc moi, je ne suis pas forcément pour, mais je pense que malheureusement, un jour, on y viendra. Parce que tous les systèmes d'incitation qui sont légion...
Oui, mais en attendant un jour, il y a des gens qui n'ont pas de médecin.
Voilà. Je peux lui répondre, à monsieur le ministre ?
On préfère pas, mais...
D'abord, la chance de la France, précisément, c'était d'avoir une médecine libérale forte à côté d'un hôpital fort. Et la seule profession ou le seul secteur d'activité qui avait été capable de mailler le territoire et d'amener le soin aux patients, c'est la médecine libérale. Et si la médecine libérale est tombée, c'est qu'elle a été abandonnée par les politiques qui ont fait un hospitalocentrisme et qui l'ont mal fait quand on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui, qui ont laissé tomber la médecine comme un fruit mûr. Et aujourd'hui, on se retrouve avec moins de médecins partout et des zones désertifiées. Mais les zones désertifiées, cher Djebari, c'est pas des problèmes de déserts médicaux, c'est des déserts tout court. C'est qu'on a loupé l'aménagement du territoire. On avait un truc qui s'appelait la DATAR à une époque, qui aménageait le territoire. On l'a totalement laissé de côté. Et aujourd'hui, on a des Français qui sont pas égaux entre eux. C'est-à-dire, on a des Français qui ne trouvent pas de médecins. On a dit maintenant, on va leur donner des infirmières à la place. On a dit aux internes, vous ferez une quatrième année, vous irez bien la passer dans les zones désertifiées. On a enlevé les secteurs publics, se sont barrés d'un certain nombre de zones. On a laissé des banlieues difficiles augmenter et la République présente périclité. Enfin, tout ça, on ne s'en est pas occupé.
Et aujourd'hui,
on a le culot de montrer les médecins du doigt en leur disant salaud, allez vous installer là où on ne s'est plus occupé des zones. Mais ça, c'est pas comme ça qu'on y arrivera.
Contre, est-ce que tu reconnais qu'on est allé un peu au bout des incitations? Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'installes et que tu es médecin, que tu vas t'installer en zone rurale, dans le Limousin, mais t'as quantité d'aide. T'as des aides pour les équipements, tu peux mutualiser plein de choses, t'as des rémunérations sur objectifs du service public, enfin, des aides pour t'inspirer.
Mais pourquoi ça marche pas?
On est allé jusqu'au
Mais pourquoi ça marche pas? La vraie question, elle est là.
Ouais, ben justement, c'est
d'abord,
la
une des raisons, c'est que la médecine est devenue le deuxième métier du ménage. C'est-à-dire que souvent, le conjoint ou la conjointe a un métier encore plus technique que le médecin. T'iras lui trouver un boulot dans la Creuse. C'est très difficile. Ils arrivent avec des enfants, donc dans les zones hyper rurales où il n'y a pas d'école, c'est difficile aussi. Dans les zones hyper, dans les villes, Paris est le premier désert médical, ne nous trompons pas. Hein. Paris est le premier désert. Pourquoi les médecins ne s'implantent pas dans des arrondissements où la vie est chère? Mais très simplement parce qu'à 25 euros, ils ne peuvent pas installer leur entreprise médicale. Ils s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas. On nous dit le salariat va remplacer. Mais le salariat, les médecins sont aux 35 heures. Nous, on bosse 55 heures sans les gardes. C'est-à-dire, et en plus, en une heure, on voit 3-4 patients. Donc ça veut dire que si tu prends un médecin qui est en libéral, tu le mets en salariat, tu aggraves le problème. Parce qu'il verra encore moins de monde. Or nous, quand on rentre chez nous le soir... On a le grand désespoir d'avoir laissé un certain nombre de patients au bord de la route et de ne pas avoir pu les voir. Parce que la demande de soins explose et que nous, on est de moins en moins nombreux parce que le système est une pyramide inversée qui fait que chaque fois que tu enlèves une tranche, la tranche qui arrive est beaucoup plus faible et donc le problème s'aggrave. En 2032, nous en serons revenus à 2022 aujourd'hui, à la même problématique. On est devant une courbe qui ne va cesser de baisser avant de remonter.
Zor habitants.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est bon, d'abord, c'est que ce soit oui ou non, les argumentaires tiennent la route et sont factuels. Mais il faut bien commencer par réparer tout ça par un bout de quelque chose. je suis assez d'accord que, j'allais dire, contraindre, c'est pas la solution. Mais n'empêche que c'est peut-être la première piste qui peut avoir un effet de domino sur le reste. Parce que les déserts en France tout court, il y en a plein, c'est vrai. Déserts de commerce, déserts de transport, déserts d'école, scolarité, etc. Et qu'à un moment donné, je pense que si les médecins sont redéployés sur le territoire, c'est aussi peut-être le début du commencement de réparer ces déserts, parce que c'est un vrai sujet. On voit aujourd'hui, depuis le Covid, le déplacement des populations vers les zones beaucoup moins urbanisées, un peu plus rurales. C'est un phénomène qui s'est amplifié. On voit bien que tout l'ouest de la France a été pris d'assaut, ouais, et que maintenant qu'il est un peu saturé. Oui, mais non, il n'y a pas que, il y a aussi dans la Vendée.
Oui, mais est-ce que le travail s'installe?
Oui, mais justement.
Si c'est pour aller télétravailler à 2 heures de ton boulot,
oui, mais j'allais dire que ça va générer et créer forcément des modifications de, à la fois de la façon de travailler, les écoles, etc.
Vous voulez des solutions pour résoudre la problématique dans les 2 ans, on les a, hein. Moi, je vous résous le problème des déserts dans les 2 ans.
Oui, mais il n'y a pas que les déserts.
Non, mais attendez.
Il n'y a pas que les déserts médicaux.
Moi, je vous dis qu'on peut résoudre la problématique dans les 2 ans. On a un problème d'attractivité de ces professions. On les a massacrés et aujourd'hui, les jeunes qui sortent de la formation médicale mettent entre 8 et 10 ans pour s'installer. En gros, on a 6000 personnes qui sortent de la fac chaque année, là, actuellement. Ça veut dire que si tu fais une péréquation avec la moyenne d'il y a 10 ans, à peu près, tu as 5000 étudiants par an qui vont mettre 10 ans à s'installer. Tu en as 50 000 qui attendent là de s'installer. 50 000, on les a. Ils ont la meilleure formation du monde parce que l'école de médecine de française, c'est une des meilleures au monde. Et on ne fait rien pour qu'ils s'installent plus vite.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Déjà, il faut rendre attractive la profession. Et ça, ça passe par plusieurs choses. Un, il faut nettoyer cette profession. Nettoyer, ça veut dire qu'il faut enlever tout un tas d'actes qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, type les arrêts de travail d'un jour, les certificats de sport redondants, toutes ces choses qui vous prennent du temps et qui font que vous avez moins de temps à donner aux patients. Il faut simplifier cette profession.
Mais qui les fait?
C'est-à-dire, il faut simplifier.
Les fait?
De quoi?
Les arrêts.
Mais le patient peut le faire tout seul. L'arrêt de travail d'un jour, il peut très bien le faire seul.
Ah bon?
L'arrêt de travail, le certificat de sport que je fais pour le gars qui vient me voir pour le
faire
foot.
Un petit arrêt de travail.
Qui vient demain me voir pour le foot. Mais tu peux légiférer et rendre une procédure, une norme qui fait que le type est surveillé quand même. Pour le type qui vient me voir pour le foot et qui un mois plus tard vient pour la muscu et qui un mois plus tard vient pour la pétanque. Un seul certificat suffit. Ça veut dire simplifier. Ensuite, le nettoyer, je veux dire. Simplifier, ça veut dire qu'il faut enlever le poids administratif qu'on a dessus, on a tout un tas de poids de temps de non-soins qu'il faut enlever et permettre ça. Et ensuite, le fait de faciliter, il faut autoriser les jeunes, par exemple, à exercer dans plusieurs cabinets. Ça, aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est appelé médecine foraine, c'est interdit par l'ordre. Tu peux pas. Il faut aussi, si je veux, moi, allouer un jour aux déserts médicaux, il faut que je puisse avoir un remplaçant qui va s'occuper de mes patients pendant que je me déplace. Ça, c'est interdit aussi. On peut pas. C'est facile à mettre en œuvre. En 2 jours, tu le mets en œuvre.
Ouais, un peu plus de souplesse.
Et puis ensuite, abordons la problématique tarifaire. À 25 euros, on est au plus bas de la nation. On est au plus bas d'Europe. Nous, on dit 50 euros. Vous l'avez entendu, on a fait 4%, on nous a dit, mais ça fait le double, etc. 50 euros, si on met dans ce prix-là, toutes les forfaits que l'on peut avoir, les différentes aides qu'il y a, vous les mettez dans le tarif, ça coûte en gros 1 milliard à 2 milliards par an à l'État. Et si tu fais ça, et qu'on s'engage, nous, à prendre mieux en charge l'addictologie, les ALED, etc., pour 1 euro dépensé, je vous garantis 5 euros de bénéfices pour l'État. Donc c'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais l'État ne veut pas le faire parce qu'il ne connaît pas la médecine libérale et il ne la connaît tellement pas qu'il l'a totalement oubliée.
Pas mal ce plan, Marty.
Rejoignez Jérôme Marty dans sa campagne. Non mais
alors on fait la pause.
Simplement, il y a aussi peut-être un problème. On peut pas à la fois vouloir plus de médecins et les obliger à aller s'installer dans les endroits où ils veulent pas vivre.
Ça
ne marche pas. C'est-à-dire que tu vas pas embaucher des gens en disant écoutez, faites 10 ans d'études, mais en plus on va vous imposer.
Il y a un plan.
On va regarder où on en est. Alors, est-ce qu'on doit obliger les médecins libéraux à s'installer dans les déserts médicaux? Une équipe dit oui, Zora, Jean-Baptiste. Une équipe dit non, Olivier et Jérôme. Attention, on y va. On monte le résultat à la mi-temps.
Ouh,
il prend une ordonnance, une sévère.
Mais oui. Les gens souffrent tellement, non mais c'est sûr quoi.
Non mais évidemment. Ils souffrent tellement, il y a tellement. Eh oui. Non mais c'est clair.
Non, mais j'y répondrai après.
Est-ce que tu penses qu'on étudie
flinguer le Marty là,
ouais,
pas, non, pas flinguer. Les tontons flingueurs sont passés.
Il est pas fini, il a d'autres arguments.
Normal, ouais, dans un instant, Olivier qui est avec nous, il nous appelle de l'Orne, il est professeur de SVT. Dans quelle équipe est-il? Il nous le dira et avancera lui aussi ses arguments.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On continue notre discussion sur l'installation dans les déserts médicaux. Une équipe dit oui, Zora, Jean-Baptiste. Une équipe dit non. Le docteur Marty, accompagné d'Olivier Truchot. C'est un autre Olivier, tiens, qui est avec nous. Il appelle de l'Orne. Bonjour.
Un joli prénom.
Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Alors, professeur de SVT, équipe oui ou équipe non?
Moi, équipe oui.
Pourquoi?
Parce que moi, j'habite une ville de 20 000 habitants et je fais mes impôts comme tout le monde. Et puis, pour mon dentiste, il est à 80 km, mon ostalmo à 50, mon dermato à 50. Donc, je vois pas pourquoi je n'aurais pas de spécialiste à ma disposition. Et ensuite, moi, je suis prof, j'ai fait mes études, j'ai fait 5 ans d'études et on m'a pas demandé, j'ai été là où on avait besoin de moi.
Bah, vous êtes fonctionnaire, oui. Ce que n'est pas un médecin.
Oui, bah, enfin, les médecins sont payés par nos impôts aussi.
Ben non. Pas plus que, l'architecte ou le notaire.
Ah bah, s'il n'y avait plus de remboursement, il y aurait beaucoup moins de travail pour les médecins.
Oh là là, ne croyez pas ça. Regardez la courbe des ostéopathes, comparez-la aux courbes des généralistes. Les ostéopathes ne sont pas remboursés, la courbe ne cesse de monter, leurs actes sont à 70 euros. Oui, mais ne croyez pas ça, les choses changent, monsieur.
Oui, mais il y avait quand même un moyen simple. Plutôt que de supprimer le numerus clausus, c'est de faire une liste d'attente et demander à ceux qui étaient sur la liste d'attente d'accepter d'aller dans les déserts médicaux.
Non, mais ce n'est pas un problème d'acceptation ou de pas d'acceptation, c'est qu'il n'y ait pas de désert tout court. Le problème, c'est qu'on désenclave un certain nombre de villes. Le problème, c'est qu'on donne les moyens à la ville d'être attractive, exactement comme on doit donner à cette profession le fait d'être attractive. Le problème, c'est pas d'avoir démoli complètement cette profession et puis ensuite de dire bon, on vous a bien démoli, on vous a bien saboté l'exercice. Maintenant, vous allez vous installer là où nos politiques carentielles ont construit le désert. Ça, c'est trop facile, monsieur. Le problème, c'est que quand on met ça en place, on vit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est le fait qu'on est en train d'explorer la possibilité de déconventionnement, c'est-à-dire de sortir de la convention et donc du remboursement sécu, etc., et que nous croulons sous les demandes des médecins qui veulent étudier cette solution, parce que là où la sécu protégée, elle est devenue mauvaise mère. Donc le problème est là. Il faut quand même qu'on soit conscient qu'on a bousillé ces professions et qu'il faut maintenant qu'on leur donne le moyen d'être attractive pour que les jeunes s'installent beaucoup plus vite. Je le disais tout à l'heure, il y en a 50 000 qui attendent de s'installer.
Oui, mais moi j'ai plein d'élèves qui sont devenus médecins, j'en ai d'autres qui n'ont pas réussi à un demi-point ou un point près. Je suis sûr que ceux-là, j'en connais quelques-uns, on leur a dit, on vous donne le concours, si vous allez en intérim médical, ils auraient sauté sur l'occasion. Donc je pense qu'il y a aussi le manque de postes, et si on avait augmenté le nombre de postes au concours et qu'on leur avait dit, on vous donne le concours, mais vous allez dans l'intérim médical, ils auraient dit oui.
Non mais ça a été proposé à une époque, mais c'est une espèce de sélection par l'échec. Il n'est pas acceptable.
On prend les mauvais et les mauvais sont rattrapés.
C'est pas vrai parce qu'il y a des bons médecins.
Mais je suis d'accord avec vous. Il y a des jeunes qui se font coller avec 15 sur 20 qui auraient fait d'excellents médecins et plutôt que leur donner cette possibilité ou encore une fois plutôt que faciliter l'installation par l'attractivité. Aujourd'hui, on met des solutions palliatives qui visent à donner des actes médicaux à des professions qui sont pas formées. Ou en tout cas avec des formations médicales parcellaires pour remplacer les médecins.
Mais ça, c'est complètement fou. Olivier, il pose la question en fait. Soit on fonctionnarise les médecins, on peut en faire des fonctionnaires, des agents de l'État.
Soit de société.
Là, c'est vrai quand même. Il a pas tort, Jean-Baptiste. On a un système un peu hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois ce sont des libéraux, mais ils sont dans un système très étatisés, administrés. On leur demande d'ailleurs de faire la bureaucratie.
D'où la demande légitime.
Donc peut-être qu'il faut trancher.
Non, mais il faut savoir comment ça fonctionne. C'est un système qui est socialisé. Où on signe une convention, moyennant quoi on accepte d'avoir des actes plutôt modiques. En fonction de quoi on nous prend en charge une part de nos cotisations sociales, et donc on accepte un certain nombre de contraintes. Sauf que ce contrat est devenu léonin, puisque les actes n'ont pas été augmentés depuis des années. Et c'est ce que, et notre profession a été encadrée, réencadrée, alourdie, réalourdie. Et donc, les jeunes médecins veulent sortir.
Tu disais que tu faisais 55 heures par semaine. Moi, j'ai pas mal de médecins autour de moi, pas mal de médecins généralistes, plutôt les jeunes, et qui veulent concilier vie pro, vie perso, qui veulent pas faire 55 heures ou 60 heures par semaine, qui veulent pas forcément bosser le week-end, qui seraient assez à l'aise dans le salariat. Bah, c'est peut-être pas la fonctionnalité.
Dans les centres de santé, c'est ça?
Bah, je veux dire, comment tu considères ça? Parce qu'on a l'impression que les jeunes qui arrivent, les jeunes médecins qui arrivent, ils veulent plutôt ça. Ils veulent plutôt, effectivement, se fonctionnaliser, ou en tout cas, se salarier et plus vraiment.
Parce que si je vais dans un restaurant et qu'on me dit que le serveur est craché dans la soupe, il est rare que je commande le plat. C'est-à-dire qu'on a bousillé tellement ces professions qu'effectivement les jeunes n'en veulent plus. Mais si tu les rends attractifs, ils iront. Les enquêtes qui ont été faites par les syndicats des jeunes montrent que plus de 70% des internes veulent de l'exercice libéral, à condition que dans les études on leur apprenne à gérer un cabinet, à condition que les tarifs soient les bons, à condition que la profession ait été nettoyée,
simplifiée, etc. Oui, mais à condition aussi de travailler dans les horaires un peu... Mais plus personne ne travaille dans les horaires décalés. C'est pour ça que aussi c'est l'enfer à l'hôpital, c'est que tu ne trouves pas un médecin le week-end, tu ne trouves pas un médecin la nuit, si tu n'as plus ton médecin référent que tu pouvais appeler avant. Alors c'est vrai qu'il était peut-être corvéable à merci, mais c'était ça un médecin
libéral. Mais sur le salariat...
C'était un médecin que tu connaissais.
Mais sur le salariat à l'hôpital...
Ça a disparu.
Mais sur le salariat à l'hôpital, c'est un excellent exemple. Si le salariat était bien, tu n'aurais pas 30% de postes vacants de praticiens hospitaliers à l'hôpital depuis 20 ans.
Non mais Jérôme,
non plus. En fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on ne veut pas reconnaître nos soignants. Ce pays est merveilleux, ce pays veut avoir la meilleure médecine du monde, mais il ne veut pas payer ses soignantes, il ne veut pas payer ses infirmiers, il ne veut pas tarifer comme il le faut ses médecins. Il faut sortir de cette logique folle.
Et
cette logique folle n'a qu'une explication.
Parce que tout ça a un
cette
coût,
logique folle n'a qu'une explication, c'est qu'en 96, M. Juppé a créé ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est une enveloppe contrainte à laquelle, à l'intérieur de laquelle on met les rémunérations et les tarifs des médecins, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville. Et comme on ne veut pas dépasser cette enveloppe,
elle a bien exposé
on ne paye
là,
pas nos soignants.
Ans,
et l'ONDAM de la ville cette année a été voté par le Parlement avec une augmentation de 2,9% alors qu'on a une inflation à 6%. C'est-à-dire que là où la médecine s'effondre, le Parlement a décidé de moins donner à la médecine cette année que l'an dernier. C'est une folie.
Jérôme, l'auditeur, il pose une question importante. Il dit, moi, je suis citoyen et là où j'habite, c'est le désert médical. Et alors que je paye les impôts comme tout le monde.
Mais on
c'est-à-dire
le
qu'il y a une inégalité ressentie et perçue d'accès aux soins à laquelle il faut répondre. Et ça, c'est hyper important parce que c'est pas normal qu'il y ait une grande partie de la population qui n'ait pas accès à ces soins, d'où les 71% qui sont pour la
contrainte. Monsieur Barrault nous dit qu'il y a 18 fois plus de dermatos, je crois, il dit à Paris que dans l'heure. Tu trouves facilement un dermato à Paris, toi?
Et pourtant,
essaye de prendre une consultation avec un dermato. Tu vas voir combien de mois il va te falloir. Les déserts sont partout. Et on fait, il fait Churchill. Churchill disait, en parlant des chiffres, des statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut.
Lionel est avec nous. Je remercie Olivier d'avoir pris la parole dans les GG. Olivier, professeur de SVT dans l'Orne. Lionel est dans le Loire-Atlantique, consultant digital. Ça n'a rien à voir avec proctologue ou gynécologue, Lionel, rassurez-moi. Non,
non, du tout. Bonjour les GG.
Bonjour.
Je suis intervenu plusieurs fois dans votre émission. Moi, je suis d'accord avec les arguments de Jérôme et Olivier.
Oui.
Dans le sens où il faut générer l'envie, l'attractivité, à la fois sur le plan professionnel, en leur fournissant des locaux modernes avec des matériaux modernes, mais aussi sur la vie familiale, les conditions de vie, donner envie, le plaisir, obliger les gens, ils resteront juste le temps nécessaire, ils resteront pas après, on se retrouvera de nouveau avec le problème. C'est surtout ça qui est important. Jérôme l'a dit, il faut donner envie de ce métier, c'est un métier important. J'en ai autour de moi qui sont en quatrième, cinquième année et qui se posent pas mal de questions. Il leur reste encore quelques années à faire. Voilà. Et donc, il faut vraiment leur donner l'envie de venir dans ces endroits où il manque.
Et comment faites-vous alors ? Comment faites-vous, vous, Lionel, justement, pour trouver des spécialistes vers chez vous en Loire-Atlantique ? Alors, combien de temps vous attendez ?
Des beaux locaux, leur construire des locaux qui vont bien, leur permettre d'adapter aussi leur temps de travail, en leur donnant la possibilité de bien s'organiser pour pas forcément travailler 5 jours sur 5, une certaine liberté parce que certains ont un épuisement.
7 jours sur 7.
Donc, et puis au niveau familial, générer entre les crèches, les loisirs et aider, accompagner aussi souvent le conjoint pour venir s'installer.
Et puis cher ami, surtout comprendre ce qu'est cette profession. Et ça, les politiques, je le disais tout à l'heure, à force de ne pas la méconnaître, ils ont fini par l'oublier. Quand on voit Monsieur Valtoux, qui a été à la tête de la Fédération hospitalière de France.
Maire de Fontainebleau.
Maire de Fontainebleau, qui fait passer l'autre jour un avenant à la loi Rist qui vise à obliger les médecins à faire la permanence des soins. Une permanence des soins qui est déjà organisée, qui fonctionne sur 90% du territoire. Quels sont les médecins qui font pas la permanence des soins? La plupart du temps, c'est des médecins âgés qui ont pris des gardes pendant 20 ans ou 25 ans, qui sont fatigués et qui disent, écoutez, maintenant, moi, j'arrête, je laisse les jeunes, moi, j'arrête parce que j'en peux plus.
Ouais.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand cet avenant est passé? Bon, elle n'est pas encore passée, la loi. Elle est en train de faire des allers-retours avec le Sénat, mais quand cet avenant est sorti, moi, je n'ai vu que des gens dire, ah, tu veux m'obliger, moi? Ben, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que j'en peux plus. Donc voilà le risque de faire des avenants juste pour faire parler un petit peu de soi, mais sans comprendre une profession.
Oui, d'accord, mais pour tous ces gens qui attendent des rendez-vous, qui veulent avoir des médecins, à quel horizon on leur donne?
Parce que c'est ça.
Mais si tu fais ce que je t'ai dit tout à l'heure,
le plan Marty,
si tu bénéficies,
c'est ça en fait.
Si tu favorises les installations des jeunes, mais t'en as des milliers qui attendent. Alors, des milliers. On est devenu fou dans ce pays, quoi. On accepte que les jeunes mettent 10 ans à s'installer.
Sur un an, deux ans, tout le, il y a plus de désert médical.
Mais bien sûr, à condition aussi que tu fasses, non, à condition que tu fasses de l'aménagement du territoire une priorité nationale. C'est-à-dire que partout où tu as un désert qui est apparu, tu dises, mais enfin, pourquoi ils sont partis? Cette question-là,
quand même, réfléchissez.
On parle des déserts médicaux tous les jours, il n'y a pas un seul politique qui pose cette question. Mais enfin, pourquoi ils sont partis, les médecins, à cet endroit? Ils étaient là il y a 20 ans, ils sont
mais
plus
là. Mais il n'y a pas que les médecins qui sont partis, les trains ont cessé d'arriver, les commerces ont disparu, les écoles
Pardon, mais ce qu'on voudrait imposer aux médecins, alors dans ce cas-là, imposons-le aux boulangers, il faut à tout prix
à
que
la poste, aux impôts.
Demandons à l'État de ne pas déserter ses territoires.
Non, mais
voilà, donc
combien de guichets,
ce qu'on demande pas aux autres.
Non, mais combien de guichets ont disparu aussi, mais c'est vrai que je pense que c'est un ensemble, c'est-à-dire que il faut commencer quelque part par quelque chose. Peut-être que l'idée d'avoir des médecins j'allais dire dans les déserts de nos territoires, c'est un ensemble, ça peut pas être que les médecins.
J'ai quand même une question, Jérôme. Il y a pas de télébagage, tu vois. En revanche, la téléconsultation ou le télésuivi des patients, ça existe pas beaucoup en France. Ça a pas mal monté pendant le Covid.
Oui.
Et ça, pour le coup, c'est pas très compliqué. Il y a quand même plein de choses que tu pourrais faire.
Ça existe,
en ligne.
Ça a bien augmenté. Il y a un risque à la téléconsultation, qui est celle d'une espèce de médecine low cost où se mettent des plateformes commerciales. Parce que ta téléconsultation, elle est valable si tu connais le patient. Ouais. Parce que tu tamponnes un examen qui est incomplet par ta connaissance du patient. Quand tu le connais pas, la consultation, 5 minutes douche comprise, rapide, sans connaître le patient.
Faut l'encadrer,
t'as besoin de l'encadrer beaucoup, parce que la finance met dessus.
Moi, je l'ai fait, c'est très grave, hein. Franchement, c'est très, très grave. Moi, je l'ai fait, moi, j'ai fait téléconsultation pour des douleurs au dos que j'avais. J'ai fait de loin, parce que je trouvais pas de médecin. J'ai fait, désolé, mais j'ai quand même un cancer, quoi. Voilà, parce que on m'a dit que c'était un lumbago, que c'était machin. Ouais. Et voilà, parce que j'ai pas, voilà.
La téléconsultation, c'est-à-dire que tu touches pas le patient.
Non, c'est super dangereux.
Et tu penses que du coup, t'as été diagnostiqué trop tard.
Forcément.
Quand tu vas voir un médecin, tu sais pas ce que tu as. Ça peut être quelque chose de bénin, mais finalement,
c'est un suivi. Tu as le télésuivi du patient.
Non, c'est chaud.
Je pensais quand même que le médecin t'a vu,
des certificats.
Voilà, moi je pense que
Jérôme décrivait un gros,
la modernité, la technicité, ça peut être un apport, comme ça peut être le plus grand
délit. Tu crois pas beaucoup.
Nous, on avait proposé notre solution très rapide. On avait dit, si j'alloue, moi, 7 ans de ma vie aux déserts médicaux ou à aller aider à l'hôpital, un jour par semaine, admettons, à ce moment-là, je bénéficie de ce qu'on appelle le secteur 2, c'est-à-dire les honoraires complémentaires. Et on fait payer les mutuelles, qui sont le plus grand scandale sanitaire chronique depuis des années et des années, où quand tu payes 100 euros à une mutuelle, elle ne rend aux soins que 55 euros. Où sont les 45 euros qui manquent?
Merci Lionel d'avoir participé à notre discussion.
Est-ce qu'on peut faire un bisou à Lysandre? Je voudrais qu'on fasse un bisou à Lysandre qui a 3 ans. Sa maman m'a envoyé un message, elle est fan des GG. Et depuis que son petit est né, elle regarde les GG. Et quand il y a le jingle, eh ben Lysandre, il est tout content.
Eh ben bisous à Lysandre.
Donc on l'embrasse depuis le plus jeune âge.
Faut-il obliger
les médecins libéraux à s'installer dans les déserts médicaux? Oui, non, oui, non, alors, oui, là, non, oui, non. Attention, résultat final.
On a perdu un point. Bravo Jérôme.
70-30, c'est quand même le oui qui l'emporte.
C'est normal.
Oui à l'obligation majoritairement pour Jean-Baptiste et pour Zora. Demain, on se retrouve. Qui sera là demain? Barbara Lefebvre, Mehdi Ghezard, Charles Consigny, l'enseignante en reconversion, le chef d'entreprise, l'avocat. Voilà, trio de GG qui sera demain avec vous, avec nous. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG, salut tout le monde.
Estelle, midi 15h.
Oui, tout à fait. Nous, on va parler du rapatriement en France de 15 femmes et 32 enfants qui avaient rejoint Daesh en Syrie. Est-ce qu'il faut continuer à rapatrier les familles de djihadistes? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui propose de taxer mondialement les plus riches à 70% pour réduire les inégalités. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et puis alors à 14h, mais ça c'est génial, c'est l'histoire du jour. Aux États-Unis, il y a un père de famille qui est devenu un héros parce qu'il est sorti avec fracas d'un groupe WhatsApp familial. Il a dit, j'en ai marre de mettre des petits cœurs à toutes vos photos qui n'ont aucun intérêt, etc., etc. 15 millions de vues sur ce message. Et nous, on va se demander si on est devenu esclave de notre téléphone. Est-ce qu'on a un droit à la déconnexion aujourd'hui en France? Dites-nous quel rapport vous avez justement avec vos portables à partir de 14h, 32-16, pour réagir dans Estelle Midi.
Et si vous êtes fan de foot et du Stade Rennais en particulier, tout à l'heure, demain de 18h à 20h, lundi, demain, donc c'est aujourd'hui.
Alors, c'est aujourd'hui.
Et bonne année 2021.
Oui,
donc on reprend.
Oui, allez,
on la refait.
Vas-y.
Si vous êtes fan de foot et du Stade Rennais en particulier, particulier. Rotten sans flamme.
Ce soir.
Ce soir, 18h-20h, avec notamment Bruno Genesio.
Ils sont, parce qu'ils sont en direct de Rennes, c'est ça qu'il faut dire.
Eh oui, du Stade Rennais.
Voilà. Du Stade Rennais.
Non, mais ça va, vous allez
Jean-Louis
y arriver, là.
Bruno Genesio, est-ce que c'est pas le meilleur entraîneur du
peut-être
monde?
Peut-être. Jean-Louis Tour, mais Emmanuel Petit.
Dieu sait qu'il a été critiqué.
Les rois de la galette saucisse, Jean-Louis Tour et Emmanuel Petit. Je peux vous dire que s'il y a des galettes saucisses.
C'est plutôt Guingamp.
Oui.
Non, mais Rennes aussi.
Rennes, mais
on dit Rennes.
Non, mais d'accord. La galette saucisse.
J'ai du breton qui me dit.
Non, je vous dis qu'elle est meilleure à Guingamp.
Ah, c'est autre chose.
Ah, bah oui, mais bon.
Faux. Faux.
Ça fait un débat.
Allez, bonne journée. Bon débat avec Estelle. Amusez-vous bien avec le Stade Rennais et Rotten tout à l'heure. Et nous, à demain.